RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Toute cette semaine, nous allons parler des couples et particulièrement des couples qui traversent des crises. Donc si c'est votre cas, je crois vraiment que le Seigneur va vous parler et va opérer un miracle dans votre cœur et dans votre couple. Et toute cette semaine, nous avons une invitée. Bonjour Maria, Maria de Coster, qui
Bonjour.
Sera avec nous.
Bonjour Maria. Bonjour.
Pour la première fois, c'est ta première visite parmi nous dans Parole de femme. Donc bienvenue.
Merci beaucoup de l'invitation, je me sens très honorée.
Ah ben on va passer vraiment une belle semaine et surtout le sujet des couples, c'est un sujet qui ne s'épuise jamais. Et puis je remarque à cause des mails que je reçois, de ce que je vois aussi, que les couples, ça peut être un très grand sujet de souffrance. Et même chez les chrétiens, quelquefois on se dit « Oh, bah, chez les chrétiens, tout va bien, tout le monde est heureux ». Et quelquefois, justement, à cause de cette façade de foi et de tout ça, ça devrait bien aller. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent et qui essayent de régler leurs problèmes toutes seules. Donc cette semaine, on veut vous encourager, on veut vous apporter une parole de vérité qui va vous libérer, mesdames. Et toi, Maria, pour te présenter un petit peu, parce que je fais des grands progrès. Donc, Maria, c'est le plus grand stress de l'émission. Tu es argentine,
vienne. Oui, argentine.
C'est pour ça que je fais. Et c'est pour ça que tu as un super joli accent.
C'est
et puis, ça fait longtemps que tu vis en France. Enfin, que tu as vécu en France pendant combien d'années?
Environ presque 15 ans.
15 ans, oh
oui.
Wow.
Oui, oui.
En tout cas, tu as un français excellent et
bon, mais
impeccable.
Merci.
Et tu es la femme du pasteur Freddy de Coster.
Exactement.
Ça fait combien de temps que vous êtes mariés?
Ça fait 18 ans.
18 ans et 3 enfants, c'est
et
ça?
Et nous avons 3 enfants, oui. 2 filles et un garçon.
Oh wow, super. On a reçu le pasteur Freddy dans nos studios, pas dans Parole de femme. On attendait que tu arrives. et donc, c'est toi en fait qui avais à cœur ce sujet-là, les couples en difficulté, les couples qui traversent des difficultés. Mm-hmm. Parce que vous-même, vous avez vécu à un moment donné des moments difficiles et mm-hmm. tu as vu la main du Seigneur vous restaurer.
Amen.
Et on voudrait dans cette première émission juste peut-être rétablir les bases. C'est quoi un mariage? Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Est-ce que c'est important déjà pour Dieu le mariage?
Oui, je pense que le Seigneur avait un plan très précis en créant vraiment l'institution du mariage. Nous le voyons déjà à la création avec Adam et Ève. Et le plan de Dieu, c'est effectivement que nous puissions apprendre cette complémentarité que nous avons. Nous sommes plus forts à deux, quelque part. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit, en parlant de David, en parlant des guerriers qui en peuvent tuer 1000, mais 2 peuvent tuer 10 000. Donc je pense que Dieu avait ce plan de nous fortifier, de nous rendre plus forts. Mais effectivement, nous sommes des êtres humains remplis de défauts, remplis mm-hmm. de tendances. Nous sommes différents aussi en tant qu'hommes et que femmes. Et donc nous traversons cette période d'adaptation que tous les couples traversent afin de vraiment nous adapter l'un à l'autre, nous connaître, nous aimer avec nos qualités, avec nos défauts. Mm-hmm. Et ce qui finalement nous rend plus fort. Et c'est seulement une fois qu'on a traversé certaines étapes dans la vie de couple que l'on peut effectivement arriver à cette étape où on dit effectivement maintenant nous sommes deux qui pouvons poursuivre 10 000.
Mmh. Et ça a été votre cas avec ton mari finalement?
Ben nous c'est vrai que c'est on a eu des moments de crise dus à des événements un peu extérieurs finalement, parce qu'on était quand même dans le pastorat, on était des conseillers nous-mêmes, on a fait des cours tous les deux aussi, on est devenus des conseillers conjugaux, on est des conseillers familiaux, etc. Mais à un moment donné, avec beaucoup de situations qu'on a eu à gérer dans le ministère et notamment les conséquences d'une campagne qu'on avait organisée à Paris-Bercy en 2009. Nous nous sommes retrouvés littéralement sous une sorte de tsunami qui est venu bousculer l'ordre que notre famille avait, notamment sur le point financier. Et nous sommes très conscients à quel point, des fois, l'aspect financier peut créer des tensions dans les couples. Et surtout, en tout cas, ce que nous avons vécu, c'était la manière de gérer. Du coup, la situation, disons, présente à l'époque, et qui était vraiment, on était sous une pression quand même conséquente. Ce n'était pas 1000 ou 2000 euros de découvert sur un compte. C'était vraiment des situations à échelle quand même d'une organisation pareille. Donc, du coup, oui, effectivement, ça a créé beaucoup de situations.
Et il faut rappeler aussi que le diable a des projets de paix et des projets de destruction pour le couple, et on peut pas l'écarter de cette équation, parce que quelquefois les couples ont l'impression que c'est dans leur couple que ça va mal, et lorsqu'on lève la tête, on se rend compte qu'il y a un enjeu en fait spirituel autour des couples.
Oui, l'enjeu spirituel est énorme. Moi, je pense que vraiment, si le diable peut particulièrement attaquer un couple chrétien, parce que bon, un couple qui ne connaît pas le Seigneur, bon, qu'il se marie, qu'il se sépare, c'est toujours une défaite pour ces personnes-là. Mmh. Quelque part, ils leur sont déjà acquis. Mais quand vous avez un couple chrétien, et un couple qui devient un exemple autour de soi, c'est-à-dire peut-être ils ont des frères et des sœurs ou des cousins qui les voient comme un modèle, etc. Tout d'un coup, c'est le témoignage de l'Évangile aussi qui finalement se casse au travers de cela, et le diable cherche particulièrement à s'attaquer à ces couples qui veulent vivre vraiment selon l'Évangile, et particulièrement celles et ceux qui sont dans le ministère, qui en plus non seulement sont un exemple dans leur propre famille, mais plus au-delà, parce qu'ils ont ils ont une influence autour des personnes qui viennent à l'église, peut-être même une influence au niveau de la ville, au niveau même national, ça dépend des ministères. Et donc là, particulièrement, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de destruction. Nous, on l'a vécu. C'est vrai que on a vécu cette oppression parfois qu'on ressentait afin qu'on prenne des décisions qui étaient vraiment contraires à la parole de Dieu. Pourtant, on le connaissait, mais on en a eu cette conscience quelque part, et on s'est pas laissé faire. On s'est dit, on va prendre le taureau par les cornes et on ne va pas laisser l'ennemi voler notre couple, voler l'unité que nous avons, et voler nos enfants, et voler aux enfants le témoignage. Vous voyez, c'est vraiment... Donc on a été vraiment confrontés aussi à cet aspect-là. C'est vraiment le plan de l'ennemi, effectivement.
Oui, c'est ça. Puis je pense pas que tout... Il n'y a pas aucun couple qui est nécessairement à l'abri, parce que vous disiez, Anna, en dehors du studio, que vous étiez un couple avant le tsunami, comme vous l'appelez. Vous étiez un couple uni, vous priez ensemble, vous aviez des bons moments avec votre époux, et puis vous considérez que vous étiez un couple fort. Mm-hmm. Donc ça vous a permis, ça vous a permis quand même de tenir durant ce tsunami, mais ça n'a pas empêché que vous avez été vraiment ébranlé, très, très, très secoué, et vous avez su quand même... traverser avec la parole, comme vous avez dit, avec la vérité de la parole.
Oui.
Mais comment expliquer qu'on connaît la parole, on connaît les principes de Dieu, et comment Anne, oui, la grâce est tombée sur toi d'un seul coup.
Responsabilité.
qu'on peut connaître, et puis quand ça va bien, c'est comme, bah oui, Dieu est bon, Dieu veut que notre mariage soit en bonne santé. Et puis quand le tsunami, ou des gouttes de pluie, hein, quelquefois, il n'y a pas forcément de tsunami, mais on veut prévenir le tsunami, justement, que d'un seul coup, on puisse perdre de vue le point de vue de Dieu.
Mais je pense que la base, c'est de comprendre que les lois de Dieu sont des lois spirituelles. Et les conseils que la parole de Dieu nous donne sur le couple sont des lois spirituelles. Et que quand on est au milieu d'une crise, la chair reprend souvent le dessus. Du coup, c'est plus les lois spirituelles qu'on va rechercher, mais c'est les lois charnelles qui vont s'imposer à nous. Et c'est le jeu du malin. Le jeu du malin, c'est d'activer nos mauvaises ficelles. Et les mauvaises ficelles, c'est les rivalités, les jalousies, les disputes, la division. La division du couple, c'est une ficelle. Alors, c'est clair que les lois spirituelles de Dieu, qui sont là justement dans les cas de crise pour nous préserver, le diable va tout faire pour les occulter, pour les masquer, pour nous dire au fond de notre petite oreille, oui, non, mais il a dit ça, mais on connaît la tactique. Oui, mais oui, d'accord, je connais le principe, mais tu as vu ma situation. En fait, il y a plein de stratagèmes qu'il va déployer pour minimiser la parole de Dieu dans notre cas en disant oui, mais là, dans la situation où on est, ça ne s'applique plus. Mmh. Donc, il faut tout redétricoter, prendre un temps à part. Je pense quand on commence à être pris dans un engrenage comme ça de disputes, de divisions avec son mari, et de voir d'abord. Moi, c'est une question que je me pose en première ligne. À qui profite le crime ?
Mmh. Ah, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que le plan de Dieu, pour revenir à ça, c'est si important. Je pense qu'il y a une amitié aussi. En fait, avant, effectivement, je pense pour la plupart d'entre nous, avant d'avoir épouser l'homme de notre vie, nous sommes devenus amis avec cette personne. Il y a eu vraiment une amitié, il y a eu un amour déjà filéo, je pense. On admirait les qualités de cette personne et donc du coup après on s'est connus davantage. Là il y a eu un amour différent qui est né et c'est cette amitié là qui d'un coup, au moment des crises, devient inimitié en fait. On ne se souvient plus de ce qu'on admirait de cette personne. Pourtant, les qualités sont toujours là en fait. Mais tout d'un coup, l'ennemi vient, il nous dit, il ne t'écoute plus. Et donc ça alimente une amertume, ça alimente. Parce que nous le laissons faire. Si nous le laissons faire finalement, si nous écoutons, effectivement, il t'en veut ou il te parle mal ou il te reproche ceci ou peu importe, le diable, en fait, il utilise nos blessures pour ressasser et créer une brèche dans l'amitié.
Oui.
Alors la parole de Dieu dit dans le Proverbe 17:9, dit que celui qui couvre une offense recherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans les discours divise les amis. Mmh. Et je pense que l'ennemi est là pour ça, pour nous rappeler ce qui nous sépare, se rappeler nos différences, en fait, et nous rappeler on est foncièrement différents. Et je pense que dans tous les couples, nous sommes bien, bien lucides de nos différences, en fait. Et je pense que le Seigneur cherche au travers de sa parole et au travers de nous rappeler plutôt nos qualités, ce qui nous a attirés chez notre conjoint. Et c'est ça qu'il faut vraiment, ce dont il faut se rappeler au moment des crises.
Mm-hmm. Moi, quand je vous entends parler, en fait, je me rends compte qu'il faut vraiment prendre un temps de recul pour pouvoir mettre en avant justement ces choses-là, les lois spirituelles ou même l'amitié filiale que des personnes avaient développée au tout début. Mais je remarque aussi quand même quand je regarde certains couples que trop souvent, il y a quand même quelqu'un qui a intenté quelque chose dans le sens où, oui, j'ai pris le temps de regarder. Une fois, je me suis humiliée. Une deuxième fois, mais trois fois, quatre fois, cinq fois, je n'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Et parfois, le discours, il passe pas à ce moment-là dans les couples. Alors, comment est-ce qu'on peut, dans une situation comme ça, prendre ce recul-là et vraiment accepter de supporter encore, accepter encore de le prendre sur soi, parce que je pense que c'est parfois là où les choses ne fonctionnent pas tellement. Là, je parle pas forcément d'une situation extérieure, dans le sens où il y a un problème qui vient cogner le couple, mais je parle aussi des choses internes dans la vie des couples. Comment prendre ça sur soi? Comment vraiment réussir à prendre ce recul où on revoit l'amitié qu'on a eue, comment on a commencé, qu'est-ce qui a fait notre force jusque-là et qui est en train de nous perdre aujourd'hui.
Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que quand la crise est vraiment forte dans un couple, ça devient un dialogue de sourds. Mm-hmm. En fait, tout ce qu'on dit n'est plus entendu ou c'est entendu à l'inverse de ce qu'on a vraiment voulu dire. Des fois, on veut dire une phrase pour essayer de réconcilier, et puis en fait, on a appuyé sur le bouton rouge, ouais, et c'est la bombe atomique. Et vous étiez même pas rendu compte que vous étiez en train de déclencher la guerre des 100 ans, quoi, finalement, vous voyez. Et donc, ça nous arrive, hein, n'est-ce pas, de ne pas faire attention à nos propos. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y en a pas une. Il faut prendre plusieurs stratégies, puisque nous sommes trinitaires, hein, la Bible dit dans le Thessaloniciens que nous sommes corps, âme et esprit, et nous devons autant prendre soin de la manière dont notre langage corporel parle, parce que si on dit je t'aime, tu sais que je t'aime,
c'est un peu violent.
Voilà, en Argentine.
Non, mais vous voyez, vous dites oui, je t'ai dit je t'aime pour te montrer que malgré tout je t'aime, mais votre corps n'est pas en train de le dire, par exemple. exemple, vous voyez, ou aussi votre regard. Et donc il y a la partie corporelle, il y a la partie évidemment de notre âme dont on doit prendre soin, d'effectivement trouver dans notre pensée, éviter tous ces mots piquants, tous ces mots, toutes ces, essayer de poser des questions. Ça fonctionne très bien quand au lieu de vous dire, au lieu de dire par exemple, mais je te l'avais dit, du genre point d'exclamation, mettez là le point d'interrogation, du genre n'avions-nous pas parlé de ces sujets déjà? Et donc du coup vous êtes en train de prendre la question un peu à contre-pied et avoir de la sagesse dans la manière dont on veut aborder certaines questions et toujours mettre vraiment une bonne dose de douceur. Encore, vous allez me dire encore, oui, encore, parce que c'est vraiment, c'est un peu comme avec nos enfants. Mais je te l'ai dit 100 fois de te laver les mains, d'aller te laver les mains avant de manger. Mais pourtant, on se retrouve avec des enfants de 10 ans. Alors, rappelez qu'il faut se laver les mains avant de manger, n'est-ce pas? Et on l'a dit quoi, deux fois par jour, pendant 365 jours, pendant 10 ans. Et là, on est là, mais je te l'avais dit, ma chérie, qu'on touche pas la nourriture, les mains sales. Et puis bon, c'est vraiment, dans le couple, c'est pareil. Des fois, moi, je suis professeure aussi. Et je me trouve avec mes élèves à leur dire tous les jours, pendant les 10 mois de l'année, exactement les mêmes choses. C'est vraiment, je suis consciente de ça, puisque c'est moi qui le prononce. Eux, souvent, au bout de 6 mois, il y a un élève qui m'a dit « Mais madame, je ne le savais pas, je ne vous ai jamais entendu parler. » Vous voyez ? Donc, dans toutes les situations de notre vie, y compris avec nos conjoints, nous avons cette situation-là. Nous n'avions déjà parlé, conféré de cette manière. « Ah, mais je n'avais pas compris. » Donc, on désamorce le conflit. On essaie d'à l'avance mettre beaucoup de soi. Et puis, effectivement, il y a le troisième domaine qui est celui de l'esprit, dans lequel nous devons surtout laisser le Seigneur imprimer en nous la parole et les principes qui sont dans la Bible. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, je les connais. Mais une chose, c'est de les connaître. Et une autre chose, c'est qu'ils fassent partie de notre essence, finalement, notre conscience. L'esprit, c'est cette conscience du bien et du mal. Et c'est là où, justement, nous devons être conscientes que si nous disons une parole blessante, nous sommes en train d'agir mal. Donc, nous ne pouvons pas prendre les mauvais outils pour obtenir un bon résultat.
Exactement.
Ah, tout à fait. Ça Et comme tu dis, on ne peut pas prendre un mauvais outil pour obtenir un mauvais résultat. Et pour revenir sur ta question aussi, Aurélie, c'est qu'on ne peut pas faire la même chose et s'étendre à d'autres résultats, en fait, si ça ne fonctionne pas, si à chaque fois on déclare la guerre de 100 ans, il y a peut-être, oui, quelque chose à revoir. Et dans ces moments de crise, il va y avoir, comme on en a parlé, des disputes. Et là, comment faire pour rester une enfant de Dieu, comment faire pour garder tous les attributs de l'enfant de Dieu, dont celui de l'épouse, parce qu'un couple, même un couple en crise, on est encore une épouse et on est encore censé être une épouse selon le cœur de Dieu, sauf que dans les crises, ça peut être plus compliqué et beaucoup de femmes se demandent comment encore respecter mon mari alors qu'on vit une crise et j'ai l'impression que je ne l'aime plus. Et clairement, je ne le respecte plus parce que je suis en désaccord avec tout ce qu'il fait. Donc, comment faire pour rester cette femme respectueuse dont nous parle la Bible ? Femme, soyez soumise à vos maris et ce n'est pas précisé seulement quand ça va bien.
Pour moi, la clé dans ces situations-là, c'est le cœur. C'est vraiment le siège de nos émotions est là. Si nous nourrissons notre cœur de ressentiment, de manque de pardon, si nous laissons que notre cœur retienne l'offense, nous devenons rancunières, nous devenons amères, nos paroles seront sèches, à la limite on deviendra même indifférente, dure ou agressive, bon ça dépend des personnalités. Mais la question c'est dans les moments de crise, qu'est-ce que nous faisons entrer dans nos cœurs ? Est-ce que nous faisons entrer dans nos cœurs le rappel d'une offense ? Est-ce que nous faisons entrer dans nos cœurs le souvenir des mauvais moments ? Est-ce que nous, le doute, finalement on alimente les pensées, mais finalement je me suis trompée, ce n'était pas celui que je devais épouser ? Ou est-ce que c'est ça que nous nourrissons ? Ou est-ce que, comme la parole le dit en Philippiens, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est droit, que tout ce qui est... Est-ce que je me souviens plutôt qu'il s'est trompé une fois, ou est-ce que je me souviens plutôt qu'il a fait, été responsable, et que malgré l'erreur, il a montré beaucoup d'intégrité, beaucoup... C'est ça que nous devons choisir, finalement. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre cœur?
Mm-hmm. Et c'est vrai... Il peut y avoir eu une erreur, et puis vraiment une grosse erreur. Hein. Là, pour vous, c'était... Enfin, je dis pas qu'il avait fait une erreur, mais je veux dire, la crise venait d'éléments extérieurs. Mais aujourd'hui, on s'adresse à tous les couples. Ça peut être un adultère, ça peut être une maladie, une perte de travail. Il y a des femmes, leur mari a perdu un travail parce qu'ils ont fait une erreur. Mmh. Et là, ils disent, bah, il a fait une erreur, il a perdu son travail. On n'a plus de source de revenus. Mais comme tu le dis, on a un choix de savoir là où on va fixer nos yeux. Oui, il peut y avoir une erreur qui a des grosses conséquences, mais peut-être que cet homme a aussi travaillé pendant 20 ans et que pendant 20 ans, il a pourvu aux besoins. Et aujourd'hui, on doit choisir, ok, est-ce que je regarde à cette erreur et pendant 20 ans, on hypothèque notre couple pour rattraper cette erreur, pour qu'il paye son erreur, ou alors je me dis, bon, c'est une erreur et je vais marcher dans la grâce.
Et donc, vraiment, tout dépend de la perspective. Et ça, c'est un point crucial parce que si nous voyons nos conjoints, que nous soyons hommes ou femmes d'ailleurs, comme celui qui, finalement, pardon, mais est mon esclave, tu es censé pourvoir à nos besoins, ou tu es censé de me faire à manger, ou tu es censé... Nous avons sur cette personne un regard d'infériorité, finalement, puisque tu es là pour moi. Or, Dieu, dans le couple, nous place dans la perspective de tu es là pour lui, tu es là pour elle. Comment tu peux le rendre meilleur? Comment tu peux la rendre meilleure? Comment tu peux faire que tout son potentiel se développe, s'accroisse? Et le problème, c'est ça. Si nous avons une perspective que notre conjoint doit faire mes quatre volontés, et ben alors c'est mal parti pour la résolution. Si nous avons une attitude d'humilité, par contre, où nous voyons, comme le dit aussi le Seigneur en Philippiens, et c'est là, vraiment, la parole est remplie de conseils. Elle nous dit, regardez les autres comme des personnes supérieures à vous-même. Si moi, je regarde mon mari, oui, il s'est planté, disons, beaucoup de gens dans le milieu professionnel ont beaucoup de respect pour leur patron. Pourquoi? Bah parce qu'entre autres, ils ont ce respect, la personne a réussi à monter une entreprise, ou parce que ben, si je me conduis mal, je perds mon job.
C'est ça. Plutôt.
Correct. Donc nous avons cette tendance à finalement les traiter correctement et à être aimables, même quand notre boss nous maltraite ou quand notre patron fait quelque chose, une erreur, et que finalement il faut rattraper. J'ai dû bosser pendant X heures supplémentaires, non payées, blablabla, parce que lui... Mais finalement, on ingurgite tout ça et on se l'avale et on le digère, parce que tout simplement, bah, ça m'arrange et puis j'y vois une convenance personnelle. Mais combien plus il y a une convenance personnelle à traiter ainsi son conjoint? Puisque si je traite mon conjoint, qui parfois peut se tromper, ou parfois peut mal me parler, ou parfois... je le traite toujours bien et correctement, qu'est-ce que je vais récolter? Peut-être à moyen ou à long terme, mais qu'est-ce que je vais récolter? À un moment donné, je vais récolter le respect. Effectivement, ça ne veut pas dire non plus que je cultive une attitude, tu peux me traiter comme une serpillière, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est une attitude de toujours honorer, de toujours soutenir, de toujours montrer combien nous le considérons supérieur à nous-mêmes. Et nous mettons en exergue les qualités. Nous disons, qu'est-ce que tu es un bon organisateur, ou qu'est-ce que tu es un bon visionnaire, ou qu'est-ce que tu es un bon père, et qu'est-ce que tu traites bien les enfants, comme tu aimes jouer, qu'est-ce que tu es attentionné avec moi. Et donc, si on commence à rappeler toutes les situations dans lesquelles nos conjoints, finalement, excellent, ça va complètement diminuer à l'échelle proportionnelle les soucis, les erreurs, les difficultés. Ouais. Et
Vas-y.
J'ai des questions.
Une petite question, là, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais, on ne pose pas juste... la question fondamentale.
Ouais. Mais comment faire, si on n'a pas le temps, on laisse tomber. Mais comment faire pour, justement, pour trouver l'équilibre et pour parler des choses qui ne vont pas quand on est dans un couple comme ça?
Moi, je trouve que l'une des choses qu'il faut faire, c'est d'abord, on ne peut pas aborder une question qui ne va pas si on est fâché. Et je me trouve incapable, bien souvent, Des fois, il y a des situations, non seulement dans le couple, mais qui peuvent être dans la vie en général, où qui vous font mal, qui vous heurtent, qui, à la limite, je me connais. Si je réponds à ce moment-là, je tue, quoi.
Carrément. Là, je comprends que tu fasses attention à ton langage corporel. Ouais, voilà.
Donc, je me connais, je suis très charnelle, mais je ne nourris pas ça, en fait. Je le dompte, je le crève de faim, cet être charnel. Pourquoi ? Parce que je sais, je me contrôle tout le temps. Quand quelqu'un me maltraite, je me tais. Je me tais, je souris bien souvent et je ne dis rien parce que je sais que si à ce moment-là je cède à la tentation de parler, je vais faire du mal. Et ce n'est pas volontaire vraiment. Donc, et ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas créer une division supplémentaire et une surenchère. Donc, d'abord, il faut apprendre à se taire et ensuite, il faut apprendre à digérer l'offense. C'est-à-dire qu'on ne peut parler d'une situation blessante que quand nous avons pu processer les sentiments, les émotions, la colère, la peur, la tristesse. Si tout ça, nous n'avons pas pu le remettre devant le Seigneur et vraiment dans la prière et dire « Seigneur, je pardonne cette personne parce que regarde, il m'a fait ça et c'était totalement injuste parce que je fais ceci et je fais cela et il n'a rien vu. » Si je lui dis ça à mon conjoint avant même de l'avoir processé, mais là, je déclenche vraiment une situation, une crise, un conflit. Mais si je me tais, je suis patiente, je prends sur moi. Et c'est là où c'est tellement important d'avoir cette force du Seigneur. Parce que quand on est vulnérable, quand on passe des jours et des jours et des jours sans prier, sans lire la Bible, quand on passe même des semaines et des mois à ne pas nourrir notre être spirituel, forcément. Imaginez-vous que nous sommes comme ça, dans une sorte de balance. Vous mettez pas des choses dans la balance du côté spi, le côté chair monte, inévitablement. Mais si vous nourrissez les choses de l'espirituel, la chair diminue. Voilà, comme ça, c'est proportionnel. Donc, nous devons processer ces situations-là d'abord. Et quand le temps propice bien, ça me fait penser, pardon, à la reine Esther et au roi Assyrus. Temps de crise terrible. Le roi Assyrus a le droit de vie et de mort sur la reine Esther. C'était un royaume ou un protocole très, très, très rigide. Et qu'est-ce qui se passe ? La reine Esther commence à dire tout le monde, tout Israël en jeûne et prière. C'était vraiment le destin de la nation. Donc la reine Esther avait vraiment le besoin d'intervenir. Mais elle n'est pas venue du genre... Hey, « Hé, roi Assyrus, tu vas lapider mon peuple bientôt, tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. » Elle n'est pas venue avec le reproche. Et c'est là où la reine a vu le roi comme quelqu'un au-dessus d'elle et elle s'est mise à effectivement mettre en place toute une stratégie pour parler de son cœur au roi au bon moment. Vous lisez les fêtes qu'elle a préparées, les repas, et quand le cœur du roi était prêt, elle a dit « Mon roi, s'il te plaît, interviens. »
Bah, merci beaucoup, Maria, pour cette première émission. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que vous avez besoin non seulement de processer, si c'est un mot, vos émotions et aussi cette émission, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Mais demain, on va poursuivre sur le sujet. On va parler des disputes aussi, un peu plus en détail, comment réagir. Maria a commencé à en parler. Et je crois vraiment que toute cette série va vous faire du bien. Gardez un cœur ouvert, demandez au Saint-Esprit de replacer les bonnes informations aux bons endroits pour qui vous concernent vous-même, pour les appliquer d'une façon personnelle. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Parole de femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de femmes sur emcitv.com.